Mais avant de donner la parole à nos trois invités, je vais laisser la parole à Annie Roland, qui va être pendant nos deux journées, nos trois journées même, notre grand témoin, je vais lui laisser introduire de façon théorique, on va dire, les journées professionnelles de l'INPAL. Pour présenter Annie Roland, Annie Roland est psychologue et maître de conférence à l'Université d'Angers. Et elle a fait de la littérature pour adolescents son sujet de recherche privilégié. Et elle s'est notamment penchée sur de récents cas de censure de cette littérature adolescente. Je vous l'ai précisé dans le programme, il y a notamment un livre qui s'appelle « Qui a peur de la littérature ado ?» qui est vraiment un point de vue très précis en plus de psychologue sur cette question de l'adolescence. Alors nous, ça nous intéressait d'avoir Annie Roland avec nous et je la remercie vraiment d'avoir accepté d'être avec nous. Car c'est un point de vue qu'on n'a jamais encore abordé vraiment, quel est le point de vue du psychologue. On a eu des philosophes, des sociologues, mais ce point de vue très précis de la psychologie, avec sa terminologie propre, avec ses méthodes, on va dire, d'approche de l'humain, je pense que ça nous intéresse beaucoup. Et puis Annie Roland est à la fois, donc elle est sur la question de la littérature, pas sur la question du théâtre, a priori, quoique une partie du théâtre fait partie de la littérature. Mais également, bon, évidemment, ça correspond à notre thème, qui est le thème de la liberté. Donc, comme elle a abordé la question de la censure, vous comprendrez pourquoi. Mais également, il y a la question de l'adolescence, et qui nous intéresse beaucoup parce que c'est exactement à cet endroit-là que nous, on situe l'entrée en théâtre, le début de la formation de l'acteur. Voilà, à cet endroit du devenir adulte. Donc, Annie, je te laisse la parole. Et ensuite, nous allons aborder la table ronde proprement. Merci.
Merci beaucoup. Et en fait, je retourne aussi le remerciement parce que je suis très touchée d'avoir été invitée ici pour des raisons assez simples, en fait, et multiples. Parce que j'accorde beaucoup d'importance aux mots, évidemment, et surtout à leur valeur symbolique, parce que ça fait partie de mon métier. Je peux préciser que je suis psychologue clinicienne, en fait, de formation psychanalytique. Donc, dans ma pratique, ça compte énormément. Je suis psychothérapeute. Donc, outre le fait que je suis venue à l'enseignement et à la formation des psychologues cliniciens assez tard dans ma vie, ça fait quand même 19 ans que je forme des psychologues. Mais avant, j'étais psychologue clinicienne à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, ça, c'est partie des choses importantes. Et je prends donc très au sérieux la mission qui m'est confiée et j'espère être à la hauteur, pour reprendre un terme avec qui j'ai échangé tout à l'heure, sur le fait d'être à la hauteur. Mais je suis très touchée vraiment d'être ici. Alors, du plus lointain de mes souvenirs aussi, là c'est plus affectif si vous voulez que professionnel, du plus lointain de mes souvenirs, j'ai aimé les histoires évidemment, beaucoup, j'en ai eu besoin énormément. Mais j'ai découvert tardivement le théâtre. Mais d'une manière, comment vous dire ça, cataclysmique, puisque des amis, quand j'avais 19 ans, m'ont emmené voir Laurent Terzieff au Lucernaire à Paris. Et pour moi, ça a été un gros choc. Sortie d'adolescence, ça a été quelque chose de signifiant. Et j'ai toujours attribué au théâtre une fonction particulière qui ressort à la fois pour moi du mystère et de la magie. Quelque chose qui se passe ou qui se passe pas, mais en tout cas, on y va pour ça, quoi. Voilà, ça, c'est la part affective. Et puis, le troisième point important, qui fait partie des raisons pour lesquelles peut-être j'accepte aux dévotés les invitations comme celle-ci, c'est qu'en psychologie clinique, on emprunte énormément au lexique théâtral pour décrire la complexité des processus psychiques. Et, par exemple, le terme de représentation est un terme qui parcourt la littérature psychanalytique, à commencer par Freud, évidemment, qui l'a mis en avant pour parler des représentations mentales et de la dimension plastique, en fait, de la représentation mentale, de son caractère vivant aussi, c'est important. Ensuite, il y a la question de la scène, de la mise en scène, par rapport aux symptômes. Le symptôme est quelque chose qui se passe, qui s'extrait, en fait, de la vie psychique pour se jouer sur une autre scène. Donc, vous voyez, ce lexique-là est vraiment très très important. Et voilà, c'est des termes qui me sont familiers et que j'utilise dans mon métier et pour penser, notamment quand je travaille avec mes patients. En tant que psychothérapeute, donc, j'utilise aussi les fictions. Parce que, alors les fictions, je dis au sens large, les histoires, quoi, que ce soit par le médium littéraire, les, cinématographique, même télévisuel. Là, c'est souvent les jeunes gens, les enfants aussi, qui m'amènent à penser mon travail autrement et faciliter la prise de parole, parce que ça, c'est quand même mon boulot. On dit toujours, on va chez un psy, et puis il faut parler, puis lui, il dit rien. Mais non, c'est pas si simple. Enfin, en tout cas, je le pense pas comme ça, en ce qui me concerne. Je pense que notre métier, c'est vraiment de faciliter la prise de parole chez quelqu'un qui est en souffrance. Parce que quand on est en souffrance, en fait, la pensée se pétrifie. La douleur pétrifie la pensée. Et notre boulot, c'est de libérer justement cette prise de parole pour que la douleur soit dite. Déjà, dans un premier temps. Ça, c'est le... Donc, si on ne fait rien, il ne va rien se passer. Hein, ça va être terrible pour tout le monde. Et surtout pour le patient. Et avec les enfants et les adolescents, c'est d'une évidence telle. Donc ce sont eux qui racontent des histoires, en fait, en premier. Les enfants, parce que leur capacité de parole prend des chemins de l'imaginaire et du fantasme spontanément, voilà, quand ils dessinent, quand ils jouent, voilà, donc c'est comme ça aussi qu'on travaille avec eux. Et les ados, voilà, je souscris totalement à ce qu'a dit Eric tout à l'heure, ce moment fondateur, on peut effectivement commencer l'apprentissage du théâtre, mais c'est aussi le début de l'apprentissage de la vie, au sens strict, c'est-à-dire au sens individué, c'est-à-dire sans les parents. Même si ça ne se fait pas du jour au lendemain, comme on le sait, il n'empêche que c'est important que ça commence là. Donc l'adolescence, c'est quelque chose pour moi de très très spécifique, on y reviendra tout à l'heure. Alors les ados, ils ne parlent pas, ils ne parlent pas du tout. C'est-à-dire que pour un psy, c'est tragique. Hein. Ça va. Alors pourquoi t'es là? Je sais pas. Il y en a même qui me disent en revanche, vous avez vu dans quel état est ma mère, vous devriez plutôt vous occuper d'elle. Hein. Par exemple. Alors, je dis ouais, mais en l'occurrence, c'est toi qui es là, donc c'est de toi dont on va parler. Et là, en fait, c'est pas possible. Il faut trouver une voie. Et la voie, c'est un film qu'ils ont vu, un bouquin qu'ils ont lu, voilà, même un jeu vidéo. Et des fois, moi, je suis emmenée sur des terrains qui ne me seraient pas venus à l'idée d'explorer. Hein. L'année dernière, un jeune garçon de 11 ans m'a complètement converti. J'étais obligée d'aller voir, j'ai regardé sur le net cette fameuse série manga qui est passée sur la télé, je pense, c'est la télé qui l'a vu, lui en tout cas, qui s'appelle One Piece. Je ne sais pas si vous le connaissez. One Piece, grâce à One Piece quand même, donc c'est un manga sous forme de dessin animé télévisé, toute la problématique affective de ce garçon a pu être parlée. Voilà. Et du coup, libérer en lui cette espèce de complexe d'infériorité qu'il avait, et où les personnages, un des personnages de One Piece l'aidait quand même, lui servait de béquille depuis un bon petit moment, parce que lui, c'était l'entrée dans l'adolescence qui était difficile. Oui, parce qu'il faut aussi entrer dans l'adolescence au moment de la puberté, ce qui n'est pas simple. Voilà. Voilà pour la présentation des motivations, en quelque sorte, qui me sont toutes personnelles. Et puis après, il y a les thèmes de réflexion. Il y en a, j'en ai noté trois pour vous aujourd'hui. Je vais dire ça rapidement. Le premier, c'est la question d'éducation. Voilà. Pour moi, éduquer, c'est conduire vers, en fonction de la racine latine. Et pour moi, l'enseignement devrait toujours, toujours être articulé à ce noble projet de conduire vers les enfants vers demain. Hein ? Ce que je regrette, c'est que parfois, au vu des témoignages que je recueille, au vu de ce que j'observe, de ce qu'on vit parfois, de ce que les enfants racontent, et de la tendance du pli qui est en train de se renforcer en ce moment, je ne voudrais pas être pessimiste, mais il serait peut-être temps de réfléchir à ça. L'éducation peut être malheureusement confondue avec un conditionnement. Et le conditionnement, c'est terrible parce que ça revient à soumettre les enfants à des principes qui sont actuels, comme figés, si vous voulez, afin d'en assurer la pérennité dans un futur qui n'appartient pas aux adultes d'aujourd'hui. Vous voyez ? C'est figé dans le temps, comme si quelque chose allait devenir pérenne sous prétexte que c'est moi, adulte, aujourd'hui, qui le dis, c'est comme ça, c'est la vérité. Et ça, c'est mortifère, en fait. Donc voilà, conduire vers pour éviter ce pli-là. Parce que si on n'évite pas ça, je pense que le risque, c'est d'empêcher les enfants d'aujourd'hui de devenir créateurs de leur propre monde plus tard, quand nous n'y serons plus. Vous voyez, c'est, ça, évidemment, c'est angoissant de penser ça, mais c'est quand même la réalité biologique. Hein. Voilà, je peux vous faire un dessin. Après, il y a la différence entre l'enfant et l'ado. Pour moi, dans ma vision des choses, quand je suis en relation avec des enfants, dans mon métier, ailleurs aussi, un enfant, c'est à la naissance d'un être humain. Ce n'est pas une naissance liée à sa naissance biologique, à l'accouchement de sa mère. Non, c'est un enfant, c'est vraiment un être humain naissant, voilà, au participe présent. Tandis que l'adolescent, c'est la naissance du monde. C'est une métaphore peut-être, mais c'est un monde nouveau qui naît avec un adolescent qui est en fait un être humain individué qui advient. Et du coup, ça change tout. Ça change tout parce que, et ça corrobore complètement l'idée de l'ouverture sur le monde qui est difficile. J'ai en réserve un manuscrit qui n'est pas publié et je l'ai intitulé « Adolecteur au bord du monde ». Vous voyez, au bord. Parce qu'il faut y aller dans le monde. C'est pas évident. Alors, ils font les fiers à bras, les ados, mais c'est parce qu'ils ont peur, hein, quand même. Hein. La question... Donc, parmi les multiples questions fondamentales qu'on peut se poser, moi, j'en retiens une qui me semble tout à fait appropriée pour ces rencontres et pour les thèmes qu'on va aborder pendant ces deux jours. C'est que donnons-nous aux enfants et aux adolescents pour qu'ils deviennent des êtres capables d'incarner une façon de vivre et de penser qui leur soit propre, inscrite dans l'histoire et dans l'espace de ce monde. C'est-à-dire que, pour moi, c'est ça la liberté. C'est un peu long comme phrase, mais c'est ça être libre. On n'est jamais libre en soi, c'est pas yukaidi, yukaida la liberté, c'est compliqué, c'est un travail permanent, ça relève de la sculpture de soi, et pour ça, si on veut que effectivement ces ados, ces enfants d'aujourd'hui deviennent des adultes capables de se sculpter au fil du temps, dans les années à venir, quand nous serons plus là pour leur apprendre, pour les accompagner, pour les conduire, eh bien, il faut leur donner ce quelque chose d'important qui les rend libres, libres, c'est-à-dire capables de créer, quoi, de créer leur propre monde avec des valeurs importantes. Alors, ce qui est important aussi, on y reviendra peut-être plus tard, c'est que les adolescents ont des valeurs. Et des valeurs d'une exigence phénoménale. Ils ne supportent pas ce que les adultes en font plus tard pour des raisons plus ou moins hypocrites. C'est-à-dire, hein, louvoyer, les compromis, vaseux plus ou moins. Enfin bon, ils n'aiment pas ça, les adolescents. Ils sont exigeants terriblement. Et évidemment, avec l'âge, et on le sait parce qu'on y est passé, parce que quand je dis adolescent, je parle de nous aussi. Hein, on a été ados, il ne faut pas l'oublier, hein, ça nous concerne. On peut aussi convoquer dans notre réflexion l'adolescent qu'on était. Moi, c'est ce que je fais dans mon boulot. Ce n'est pas toujours agréable, mais bon. Je pense qu'il faut, c'est important de se réconcilier aussi avec l'ado qu'on a été. Deuxième point, la liberté. Donc, cette fameuse liberté qui, pour moi, rime avec altérité. Et l'enseignement du théâtre, du coup, pour moi, se situe très exactement à l'intersection de ces deux notions-là. Intersection entre altérité et liberté. Pour moi, l'articulation de ces deux notions-là, c'est vraiment un vrai enjeu civilisationnel. Et quand je dis ça, donc vous voyez le gros truc que c'est, quoi. Pourquoi ? Parce que le théâtre allie le corps et le texte. C'est ce qui me faisait réfléchir à la littérature. Déjà, quand j'en parle avec les ados, les romans qu'ils aiment lire, par exemple, c'est des romans où ils ressentent physiquement des trucs. Il faut qu'ils aient le frisson, il faut qu'ils soient pris aux tripes. Et bref, quand ils lisent un roman et qu'ils l'aiment, quand ils en parlent, en fait, ils corporalisent le texte. Alors que c'est un bouquin, hein, mais ils corporalisent quand même le texte. Du coup, je me dis, le théâtre, c'est fabuleux parce que ça vient répondre presque un petit peu à ça. Ça vient dire, oui, ton corps aussi peut jouer. Voilà. Et pour moi, en tant que psychothérapeute, du coup, c'est important parce que si ça permet ça, ce fameux processus-là, cette intersection, eh bien, elle participe à quelque chose qui est très important du point de vue du développement psycho-affectif de tout un chacun. C'est un processus... Alors, je vais essayer d'être clair. Hein, mais alors, si je jargonne, surtout, vous m'arrêtez, hein, parce que des fois, ça me prend sans que je m'en rende compte. Voilà, c'est vrai que c'est un peu nul là, ce que j'ai écrit. Voilà, c'est là où ça m'a pris. Processus d'unification d'un corps pulsionnel, j'ai écrit. Moi. Comment je pourrais dire ça autrement? C'est à cause de la puberté. Le corps de... je vais faire un petit truc bref, un petit aparté. Qu'est-ce que c'est que la puberté? C'est l'irruption du sexuel dans le corporel. Ça parle à tout le monde. L'irruption du sexuel dans le corporel. C'est pour ça que c'est violent. C'est pour ça que c'est cataclysmique. C'est pour ça que c'est pas simple. C'est pour ça que c'est vécu d'une manière quand même assez passionnelle. Et parfois dans la honte et dans le repli sur soi. Hein. Quand les ados s'enferment dans leur chambre quand ils ont 12-13 ans, c'est pas forcément parce qu'ils font la gueule. Hein. Parce que c'est dur d'être avec les autres quand on a ce corps qu'on n'a pas voulu, déjà, on n'a pas décidé. Il y a encore l'enfant qui se rebelle, là. Disons, moi, j'en veux pas, je veux pas de poils, voilà. C'est pas toujours une fierté, hein. Même si c'est glorifié par les adultes, hein, souvent. Mais de toute façon, ça change rien, il faut qu'ils fassent avec. Et il faut que le travail, c'est le temps qui va le faire. Et ce processus, donc, d'unification, je sais pas comment le dire autrement, du corps pulsionnel, donc pubertaire, ce truc où il y a du sexuel maintenant, et la pensée individuée, voilà, c'est ça, unir ces deux trucs-là, la pensée individuée, c'est-à-dire que c'est aussi la première fois qu'ils pensent sans leurs parents. L'enfant pense avec ses parents. Et là, il faut penser sans ses parents, et il faut assumer un corps où le sexuel vient de faire éruption d'une manière cataclysmique. C'est difficile, difficile. Ils n'en parlent pas, mais je vous assure que quand ils en parlent, dans le lieu secret auquel, heureusement, ils font confiance, où leur parole ne va pas être répétée, je vous assure qu'ils disent des choses très, très subtiles et douloureuses par rapport à ça. Vous voyez, particulièrement ceux, je pense à ceux qui ont 13-14 ans. Voilà, la question de l'altérité. Alors, en psychologie clinique, on a coutume, et en psychanalyse, l'altérité, c'est quelque chose de singulier, puisque c'est la place que j'attribue à l'autre dans ma propre galaxie, c'est-à-dire par rapport à mon moi. Donc c'est le début de l'intersubjectivité. C'est le début de la vie en société. On ne peut pas vivre en société si on n'accepte pas les règles de l'intersubjectivité, c'est-à-dire de sujet à sujet, il y a moi, mais il y a les autres, et sans les autres, je ne suis pas grand-chose, même si Sartre a dit que l'enfer, c'est les autres. Ouais. Ils l'apprennent à l'école, ça, alors ils le disent, il paraît que l'enfer, c'est les autres. Mon Dieu que c'est vrai. Quand ils viennent en psychothérapie, ils le savent, hein, que l'enfer, c'est les autres. Parce que l'altérité, elle est naissante chez eux. Ils n'ont pas encore les outils pour faire avec ce qui est difficile. Et pourquoi c'est important? Et vous le savez certainement, voilà, c'est étroitement lié à la question de la liberté. Mais toujours pareil, liberté limitée, bornée par l'autre. Hein, parce que la relation que nous établissons avec autrui, finalement, elle détermine toutes les autres questions importantes de notre vie. Alors j'en cite au hasard celles que j'ai retenues, mais vous pouvez en trouver d'autres, hein. La question du désir, la question de la joie et de la douleur, la place du corps et de la sensorialité, de la sexualité. Et la dernière, enfin c'est un truc un peu qui me concerne plus dans ma pratique, la peur et le vertige existentiel, c'est-à-dire l'angoisse d'exister, quoi. L'angoisse d'exister, finalement, je pense qu'on se rassure en étant ensemble, hein, même si on sait que c'est un leurre, mais on se rassure quand même. Voilà. Donc le théâtre. Par exemple, en tant qu'acteur, pour moi, suppose une réflexion sur le jeu de la vie et de la mort, de l'amour, de la haine, et voilà, et toutes ces questions-là, donc du coup, sont aussi travaillées sur scène, on met des mots et on joue, voilà. Pour les adolescents et les jeunes adultes, et il y en a que j'ai rencontrés, hein, qui en ont parlé, qui font du théâtre, ils leur donnent l'occasion d'éprouver, d'expérimenter, éprouver, c'est un mot important, expérimenter, une association intelligente et jubilatoire. Les deux mots sont importants aussi, du corps et du texte. Je reviens à mon histoire du corps et du texte. Donc au début du monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début du monde qu'est l'adolescence, nous avons besoin d'histoires qui racontent le tumulte des passions violentes qui caractérisent l'humanité. Parce que l'humanité n'est rien d'autre que ça. Le tumulte des passions violentes, voilà. Et ce qui est intéressant, et que peut-être peu de gens... l'observe, moi j'ai vraiment un point de vue privilégié parce que les conversations que j'ai dans le cadre de ma pratique avec les ados, c'est vrai que ça, je recueille vraiment un discours important, et je vous assure que ces ados, ont besoin de... Ils sont exigeants par rapport à des valeurs morales très importantes. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent un monde sans guerre. Un monde fraternel. Un monde où la vérité triomphe. Il n'y a pas de mensonge dans ce monde-là. Le problème, c'est que en revendiquant tout ça, ils revendiquent tout ou rien. C'est-à-dire qu'ils veulent ça, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des, c'est pas des champions du compromis. Hein, comme, voilà, c'est au contraire. Et ils entrent en dissidence. C'est pour ça qu'on est en désaccord pendant tout le temps que dure l'adolescence, par exemple, de nos enfants. Ça, c'est évident. Ils entrent en dissidence. Et cette dissidence-là, pour moi, elle est fondamentale. Il n'y a pas d'adolescence, il n'y a pas de travail d'adolescence, il n'y a pas de devenir adulte sans dissidence. Je le sais parce que j'ai travaillé en psychiatrie et j'ai soigné des schizophrènes pendant 12 ans. Je vous assure qu'ils ne sont pas entrés en dissidence quand il fallait. Hein. Et du coup, tout le reste, est, c'est des gens qui sont finalement ensuite mis sous le boisseau à partir de 17-18 ans, si les choses... Si la dissidence n'a pas eu lieu, dans les 5 années qui suivent, ils décompensent parce que le réel est impossible à supporter. Et du coup, ben, ils vivent dans une néo-réalité qui les empêche de mourir, tout simplement. Mais c'est très difficile de les en sortir après. Parce que fabriquer de la dissidence à 30 ans, c'est pas... ça marche pas. La seule chose qu'on peut faire ensuite en tant que psychothérapeute de formation psychanalytique pour des schizophrènes, c'est de les aider à se fabriquer des prothèses. Donc c'est les prothèses, c'est les prothèses. Hein, c'est pas... Voilà. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la dissidence. C'est nécessaire. Et que ça doit entrer, voilà, cette dissidence, elle doit entrer en résonance avec la culture. Pourquoi ? Pour que la pulsion soit mise en texte. Parce que si cette pulsion n'est pas mise en texte, la pensée se dérobe, c'est ça qui arrive aux schizophrènes, et laisse le champ libre à la violence pulsionnelle, à l'état pur, c'est-à-dire à la barbarie. Parce que nous avons ce germe-là aussi en nous, hein. Et on le sait, malheureusement, de manière concrète, durant ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années même, puisque c'est... voilà. Et après, je n'ai pas la prétention de dire ce qu'est la culture, mais je vais quand même vous donner ma définition à moi. Pour moi, le théâtre, la littérature, le cinéma, les arts, ça fait partie de la culture. Ce n'est pas toute la culture, mais ça fait partie de la culture parce que ça raconte des histoires, nos histoires, nos histoires à nous. Et on ne peut pas se passer d'histoire. Il y a un écrivain britannique pour la jeunesse que j'aime beaucoup qui s'appelle Aidan Chambers, qui est... bizarrement pas très traduit en français, alors qu'il est traduit dans tous les autres pays d'Europe. Aidan Chambers dit très joliment, il écrit de très bons romans pour les ados, pourtant. Des romans que même adultes on aime, alors vous voyez. C'est... nous sommes des animaux qui avons besoin d'histoire. Voilà. Et il souligne bien le fait que nous sommes des animaux qui avons besoin d'histoire. C'est peut-être ce qui nous caractérise, qui fait que nous sommes humains. Mais le côté animal, c'est le côté pulsionnel, justement. C'est la pulsion qui nous anime, qui peut fabriquer du désir, le meilleur des désirs, mais qui peut fabriquer le pire si la pensée s'est dérobée et que le corps n'a pas trouvé le texte. Voilà. Donc le théâtre est un cadeau inespéré pour des adolescents. Il leur restitue sous une forme inconnue, comme une aventure, une chose qu'ils ont récemment perdue, et qu'ils n'évoquent que rarement, parce qu'ils en ont honte, et puis qu'ils veulent surtout se conformer aux exigences de l'espèce, relayées par leurs parents, l'injonction de grandir. Mais grandir un peu... Qu'est-ce qu'ils ont perdu ? Le jeu. Ils ne savent plus jouer. Ils ont perdu cette capacité jubilatoire de s'extraire du réel dans ce que Winnicott avait appelé l'espace transitionnel ou l'espace potentiel. Et voilà, Winnicott a magistralement montré à quel point jouer était important pour les enfants parce que ça leur permet aussi de supporter le réel. C'est comme un sas de décompression, si vous voulez, entre réel et imaginaire. C'est comme ça que les enfants jouent. Et ils en éprouvent une grande joie, un grand plaisir. Dès que la puberté arrive, terminé. Fini. C'est une expérience de désillusion profonde pour chaque nouvel adolescent. Et ils n'en parlent pas parce qu'ils ont honte. Alors ceux qui en parlent, ils en parlent en thérapie, par exemple. Il y a une jeune fille de 13 ans qui me disait « L'année dernière, à Noël, j'ai demandé une poupée. Ma mère, elle m'a dit « Ça sert à rien, tu vas pas jouer avec, t'es trop vieille. » Elle me dit « Je l'ai demandé quand même. » Le problème, c'est que ma mère avait raison. J'ai pas joué avec. En fait, cette jeune fille, elle espérait pouvoir retarder le processus pour essayer de garder ce truc magique qui fait que quand on joue et qu'on est un enfant, c'est le monde entier, voilà, qui est à notre portée, en fait. Et on perd ça avec la puberté. Donc il faut trouver autre chose. Et ça dure un certain temps. C'est pour ça que, pendant tout le temps que dure le processus d'adolescence, les adultes qui sont proches de ces adolescents-là, qui ont pour mission d'enseigner, de conduire, d'éduquer, tous les adultes qui ont charge d'âme, je pense qu'ils sont vraiment aux premières loges pour donner à ces adolescents et jeunes adultes de quoi remplacer ce qu'ils ont perdu. Et leur dire, tu vas voir, t'as peut-être perdu quelque chose de précieux, mais ce qui va t'arriver maintenant, c'est incomparable, quoi. C'est précieux, c'est génial. Voilà, ça s'appelle la vie, mais on ne peut pas le décrire vraiment, d'autant que c'est une aventure et que donc c'est mystérieux. Donc pour moi, jouer à l'adolescence, alors ils savent jouer, les ados, les tablettes, enfin maintenant en plus on dit ils jouent trop aux jeux vidéo, ils jouent à des trucs violents, Mais n'importe quoi, il faut qu'ils trouvent un truc de toute façon, ils peuvent pas rester comme ça, les bras ballants, c'est hyper angoissant pour eux. Du coup, ils incarnent un personnage. C'est littéralement donner chair et sang, entrer dans la peau de l'autre, donc mieux altérité, pour lui prêter vie l'espace d'un instant, cet instant-là, il suspend le temps en plus. Et c'est monter sur scène malhabile pour jouer un rôle et soudain devenir habile. Vous vous rendez compte, le cadeau, quoi. Ça, c'est pour les ados, je parle des ados, des jeunes, des entre 15 et 18 ans, là. Monter sur scène malhabile parce qu'encore pas habitué à ce corps, à cette pensée bizarre, qui je suis, etc. Et monter sur scène et de ce coup tout prend sens, l'espace du jeu théâtral. Voilà. Pour moi, c'est ça, jouer, c'est recréer le monde, que ce soit enfant, adolescent, adulte, etc. Et pour terminer, je voudrais donner la parole à un écrivain que j'aime beaucoup et qui a compris des choses par rapport à ça et qui en parle beaucoup, faut lire ses romans, c'est Stefan Zweig, 1948, La confusion des sentiments. Je cite juste un court extrait de la confusion des sentiments, car tout esprit vient du sang, toute pensée de la passion et toute passion de l'enthousiasme. Voilà, merci.
Merci beaucoup Annie pour cette introduction qui ouvre plein de perspectives et notamment sur le jeu théâtral aussi, comment cet espace du théâtre peut redonner un sens au jeu, mais aussi parce que c'est un jeu qui procède de l'apprentissage, cette fois-ci. C'est pas le jeu immédiat, peut-être, de l'enfant. C'est-à-dire qu'on réapprend un jeu.